L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 238e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre après avoir résolu de légers problèmes techniques indépendants de notre bonne volonté. Ce soir, c'est donc l'actualité des deux semaines écoulées. Il y a deux semaines, vous avez pu entendre le premier volet de nos best-of dégeekalisation de Pierre, que Pierre, il était même pas au courant que j'avais monté des dégeekalisations et que j'avais fait une émission avec. Donc, périodiquement, nos émissions seront entrecoupées de ces best-of. Par malheur, il nous est impossible de réaliser cette émission en différé un dimanche où nous sommes pas disponibles.
Ou quand vous avez des bronchites.
Et on souhaite à Pierre un excellent rétablissement. Mais là, on entend au son de sa voix assurée que ça va quand même beaucoup mieux. On va commencer avec notre ami Mark Zuckerberg, on va commencer.
Zouzou,
Facebook Zuckerberg. Et la menace que fait planer donc Meta, le groupe qui chapeaute désormais Facebook, donc qui possède notamment Facebook, mais aussi WhatsApp ou encore Instagram, suite à une remise en place du groupe Meta par la commission irlandaise de protection des données, donc la Irish Data Protection Commission. Qui refuse désormais que des données d'utilisateurs, des données personnelles soient envoyées aux États-Unis. La mesure de rétorsion qu'envisage Facebook, c'est tout simplement de couper l'accès aux utilisateurs européens à Facebook. Et moi, j'ai envie de répondre chiche.
Voilà, je suis désolé, Alexandre, je suis pas d'accord du tout. Tu as utilisé le mot menace. Moi, j'appelle ça une promesse.
Ça dépend du point de vue, Pierre.
C'est un cadeau, c'est une bénédiction. J'ai pas de mots assez positifs pour dire.
Dans l'esprit de Mark Zuckerberg, c'est une menace.
Oui, dans l'esprit de Zouzou, c'est une menace, mais c'est un espoir.
Chez nous, oui, différence. Légère différence d'interprétation.
Et donc, pour rappel, donc ça, c'est parce que la Cour de justice de l'Union européenne a annulé en 2020 le Privacy Shield parce que ils ont considéré que les données de personnel en Europe sont protégées d'une façon plus forte qu'aux États-Unis. Soi-disant que aux États-Unis, les règles de protection de la vie privée ne s'appliquent qu'aux citoyens américains et que les organismes d'espionnage peuvent faire ce qu'ils veulent avec les données de tout le monde. Soi-disant.
On reste avec nos petits tycoons des données personnelles et cette fois-ci on part du côté de Twitter et de son potentiel racheteur Elon Musk, donc connu pour avoir créé la firme Tesla, donc le fabricant de voitures électriques à la mode. Vous savez, c'était un long projet, hein, c'était l'annonce tonitruante il y a quelques mois, Elon Musk donc racheté Twitter. Elon Musk qui trouve que la modération de Twitter en fait trop et en fait un petit peu trop à gauche, en tout cas trop au bénéfice des minorités, ce dont on n'est pas forcément très d'accord quand on est utilisateur de Twitter et qu'on voit ce qui y passe. En tout cas, il reprochait donc à l'entreprise de ne pas fournir suffisamment d'informations permettant de prouver que l'affirmation donc de Twitter disant que seuls 5% des comptes actifs sur le réseau sont en fait des bots ou des faux comptes étaient réels. Donc Monsieur Musk est en fort mari. Il a de manière aussi tonitruante que l'annonce d'achat annoncé qu'il allait renoncer donc à l'acquisition de Twitter. Suite devant les tribunaux, puisqu'il y avait une clause mutuelle de 1 milliard de dollars en cas de non-aboutissement, non-aboutissement injustifié.
Après, rappelons que Elon Musk est un habitué de la manipulation du cours d'action en bourse à travers Twitter. Pardon ?
Allez, allons-y. Ouais, Bon, Pierre, la séquence que vous attendez toutes et tous, mais pas celle de fin d'émission.
Oh, celle-là de séquence.
Évidemment. Voilà, voilà, la communication en verbe. C'est le point Hadopi. C'est un point Hadopi à l'échelle européenne. Si vous êtes au fait de l'actualité, et si vous nous écoutez, vous l'êtes forcément, des différents organismes légaux concernant les télécommunications et les communications, les médias en général, vous avez sûrement retenu que au 1er janvier 2022, donc le 1er janvier de cette année, le CSA et l'Hadopi avaient fusionné au sein de l'ARCOM. Donc l'ARCOM reprenant la mission de riposte graduée qui consiste donc à confier à des opérateurs privés le soin de collecter des adresses IP de contrevenants aux lois sur la copie privée et donc le partage d'œuvres sous droit d'auteur, de les donner à l'ARCOM désormais, charge à elle donc d'envoyer des avertissements et après plusieurs avertissements, d'engager des poursuites pénales. Et c'est cette partie-là, donc la collecte de données personnelles automatisées, c'est-à-dire par les entreprises sans contrôle légal, qui est remise en cause donc par un collectif d'associations, donc, notamment la Quadrature du Net. Donc c'était arrivé, donc c'est parti donc il y a 10 ans avec une requête auprès du Premier ministre pour faire annuler donc le décret. Qui bien évidemment a refusé, s'est passé devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a donc décidé de remettre ça devant la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'il n'est pas sûr de l'interprétation d'un arrêt du 2 mars 2021 relatif à l'accès aux données de trafic et de localisation en matière de lutte contre la criminalité. Donc l'audience a eu lieu, si je dis pas de bêtises, mardi 5. Exactement. Donc, tout simplement, ce que conteste donc le collectif d'associations, dont fait partie notamment la Quadrature du Net, c'est que la légalité donc de la collecte de données personnelles sans l'assentiment donc d'une juridiction. Si c'était la décision qui était celle de la Cour de justice de l'Union européenne, ça voudrait dire qu'au final, eh ben, la collecte automatique ne serait plus possible puisqu'il faudrait qu'à chaque demande, à chaque donc découverte d'une adresse IP, il faudrait donc pour avoir la personne correspondante, donc l'abonné correspondant. On sait qu'il y a un autre frein actuellement qui est le fait que un même abonné, plusieurs abonnés peuvent partager une adresse IP donc avec différents ports, donc le NAT. On vous passera l'explication technique, c'est un premier frein. Et néanmoins, le fait de ne pas pouvoir sans avis d'un juge savoir qui est l'abonné à l'adresse IP, et ça ralentirait énormément donc la collecte des utilisateurs considérés comme fautifs.
Et précisons que la défense de l'avocat, je crois que oui, c'est l'avocate de l'ARCOM, la défense, c'était de dire que, alors en fait, si c'est grave, parce que oui, effectivement, une seule personne, c'est pas grave, mais plusieurs personnes, c'est comme avec un enfant qui se fait piquer par une guêpe, c'est pas grave, mais s'il y a un essaim de guêpe qui rentre dans sa cagoule, ça va être très grave.
Grosso modo. Si vous avez compris la comparaison, n'hésitez pas à nous contacter.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Hein,
C'est par téléphone au numéro que je ne sais plus. Je vous le dirai avant la pause musicale. De toute manière, on n'appelait que pendant les pauses musicales. Pour ceux qui aiment nous contacter, on est toujours ravis de vous répondre. Ou sur Twitter, justement, @écodecnous. On va rester du côté européen. Et donc, le Parlement européen qui a adopté donc, les directives Digital Services Act et Digital Market Act. Donc par 588 voix contre 11, une adoption assez, pas dire unanime, mais pas loin, donc qui devrait obliger les grands acteurs du numérique à respecter un petit peu mieux la concurrence, notamment en termes de verrouillage donc des marketplaces pour des stores d'applications pour les téléphones mobiles. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quand même l'exemple principal qui nous vient à l'esprit.
Il y a aussi l'interopérabilité entre les applications de messagerie instantanée.
Ah oui,
ça c'est Facebook, Messenger, WhatsApp, e-message qui seraient obligés d'être interopérables, y compris avec les plateformes de messagerie plus petites qui en feraient la demande. Au niveau du Digital Service Act, l'accès aux algorithmes des plateformes, l'obligation de supprimer les produits et services illégaux après qu'ils aient été signalés. Et j'avais une petite actualité sur ça à propos de Facebook que j'avais pas passé. Facebook inonde les patients souffrant de cancer à minima aux États-Unis de publicité pour des produits divers et variés. Par exemple, un produit dont je ne citerai pas le nom, hein, chut-chut, pas de marque, une mixture propriétaire à base de vitamine C qui tue le cancer.
Tu parlerais d'un jus d'orange ?
C'est ça, non mais ce genre de publicité, je crois.
On parle
ça...
pas d'hydroxychloroquine ?
On va peut-être. Okay. J'espère qu'ils ne vont pas jusque-là dans les pubs. Toujours est-il que ce genre de publicité, ben j'espère que c'est interdit, en tout cas en Europe. Et avec ce genre de nouvelles lois, ça donne un élément en plus dans l'arsenal pour vraiment lutter contre ça. Les utilisateurs devront aussi être mieux informés de la façon dont le contenu leur est recommandé. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi YouTube récemment m'a recommandé une vidéo complotiste. Donc vivement, j'ai hâte. Hein, ce genre de déchets,
à
je
partir
pas.
Du moment où vous regardez des vidéos politiques, on a tendance à vous suggérer des vidéos orientées assez très très à droite, c'est-à-dire légèrement à la droite d'Hitler.
Ouais, c'est ça. Donc à suivre, hein, parce que là ça a été passé au Parlement européen, il faut maintenant que ça passe en législation nationale, il me semble.
Le successeur, entre guillemets, de Megaupload, donc Mega, affirme ne pas pouvoir déchiffrer les données qui sont hébergées sur la plateforme, sauf qu'une attaque, Pierre, a prouvé le contraire.
Évidemment, et en fait, on rejoint un problème très 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 courant et... Alors, je vais faire l'expérience en live parce que j'avoue, je me souviens plus si j'avais fait l'expérience sur Mega Upload. Donc, je cherche Mega sur Internet, donc mega.io. Alors, on va voir s'il y a le même bug. Connexion. Est-ce qu'il y a un champ ? J'ai oublié mon mot de passe. Mot de passe oublié. Bon, ben voilà. Ça veut dire que c'est pas sécurisé. S'il n'y a aucun moyen sûr de s'authentifier... Comment dire, s'ils peuvent remettre à zéro le compte et redonner accès si vous avez perdu votre mot de passe, ça veut dire que eux en interne, ils peuvent accéder au compte. Ils peuvent très bien se donner un accès même temporaire, il n'y a pas de problème. Faut arrêter. Le champ mot de passe oublié, c'est un indice majeur pour savoir que quelque chose, non, c'est pas sécurisé. Parce que c'est une fausse fonctionnalité, la fonctionnalité de mot de passe oublié. C'est indispensable pour la plupart des usages. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est signe qu'il y a un gros. C'est signe que. Bah non, ça ne peut pas être entièrement sécurisé. Moi ça s'arrête là. Hein. Et donc là, les chercheurs ont publié des éléments qui. Ils vont plus loin au niveau de l'architecture de Mega pour prouver que si, il n'y a pas de problème pour déchiffrer les données. Alors, il y a tout un ensemble d'éléments qu'ils utilisent pour le démontrer.
Alors, si vous avez acheté des films de Studio Canal via le PlayStation Store, eh bien c'est dommage.
Eh bien c'est dommage.
C'est dommage. Vous...
Alexandre, tu as bien dit acheter, et c'est ça le mot qu'il faut vraiment mettre en exergue.
Acheter, effectivement.
On l'a acheté. Voilà. Ils ont acheté des films. Alors, je parle des utilisateurs. Je dis, hop, vous êtes sur votre PlayStation Store, vous voulez regarder un film. Alors, je ne sais pas quel film. Il y en a plusieurs. Hein. Tous les films du catalogue de Studio Canal qui étaient présents sur le PlayStation Store.
Un film sur le cyclisme. Il y a peut-être le vélo de Guylain Lambert dedans, je ne sais pas.
Peut-être. Et donc, vous avez acheté le film. Vous avez payé, je ne sais même pas combien ça se vend maintenant ces trucs-là, hein, les accès en ligne. Moi, je suppose que ça ne va pas être 5 euros, hein, ça va être 20 ou 30 si ça se trouve. Vous avez acheté, vous l'avez téléchargé sur votre console de jeu, sur le disque dur. Eh bien, à partir du 31 août, vous ne pourrez plus le lire. Il sera retiré de votre bibliothèque.
Alors, Canal+, ce n'est pas les gens qui traitaient les internautes de voleurs ?
Je ne sais pas. Après, moi, je ne considère pas ça comme étant de la faute de Canal+ là-dessus. C'est un accord entre studios. Là, pour moi, la faute, elle est de la part de PlayStation d'avoir vendu du contenu, finalement, qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Sinon, s'ils ont un accord qui est limité dans le temps, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est louer. Il faut juste arrêter le mensonge. Le verbe « acheter » a une signification. Ce n'est pas la même que le verbe « louer ». Donc, à partir du moment où tu vends quelque chose, tu le vends sans la limite dans le temps. Un bien n'est pas un service. Mais apparemment, tout devient un service. Donc, un film, c'est un service. Un véhicule, c'est un service. Je ne sais pas ce que ce sera demain. Est-ce qu'une paire de chaussettes, ce sera un service aussi? Il y aura un DRM sur la chaussette pour dire...
Ne vous portons un mois, on ne vend pas la perceuse, on vend le trou.
C'est ça.
D'autres actualités après un premier morceau de musique, nous allons écouter Less Affected et Chorus Conquest. Vous écoutez les côtés de nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Less Affected et Qual Conquest. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités et on va l'entamer avec une bonne nouvelle. La ville de Lyon abandonne Microsoft et va passer à des solutions basées sur des logiciels libres. Bon, la ville de Lyon qui a basculé au sein des Verts. Qui est désormais géré par les Verts depuis l'année 2020. Est-ce qu'il y aurait une coïncidence? Je ne suis pas persuadé. Il y aura un lien.
A priori, Gérard Collomb, était a priori assez fan de Microsoft.
Et pourquoi ça m'étonne pas ?
Moi non plus.
Alors, c'est quelle ville qui récemment avait fait machine arrière ? Je ne sais plus. Munich, ils arrivent, ils repartent.
Il y en a quelques-unes qu'on a du mal à suivre. Je me demande s'il n'y avait pas une ville dans l'Extrémadure dont on est parlé récemment qui aurait lâché l'affaire, je ne sais plus laquelle. Alors, le projet, c'est de faire une transition, et là, c'est pas tout le temps, mais donc là, c'est une migration au niveau des suites bureautiques notamment. Alors là où je suis moins fan, c'est le choix de la solution, puisqu'ils vont partir sur une suite libre, certes, mais ils vont partir sur OnlyOffice et pas LibreOffice. OnlyOffice, dont le format par défaut reste les Microsoft Office Open XML.
Ah, t'es obligé de faire preuve d'un certain pragmatisme aussi.
Open Document est le seul format reconnu standard. Les autres, c'est de l'Adobe.
Mais... De l'Adobe, non, c'est Microsoft.
Et donc, dans les arguments, il y a aussi le fait que donc là, les agents disposent d'Office 2013, dont le support s'arrêtera en avril 2023. Et avec en plus un passage de support de 10 ans à 7 ans par Microsoft, ça faisait des renouvellements trop fréquents pour le goût des élus. Donc c'est un choix.
Après,
économique.
Ça ne veut pas dire que le fait de passer au libre signifie plus rien à payer. Ça nécessite quand même un certain support. C'est pas gratuit, mais vous embauchez des informaticiens, des ingénieurs d'un point de vue local, des sociétés locales
ou au pire national.
Au pire national. C'est de l'emploi localisé.
Au lieu de là, un support qui va être fait par Microsoft, je ne sais pas où, mais avec une bonne partie qui sera sous-traitée soit aux États-Unis, soit dans des pays à bas coût.
En Azerbaïdjan ? Bon, c'est pas connu pour. Par contre, une nouvelle un petit peu moins joyeuse, une mauvaise nouvelle, donc le site internet Next Impact, donc un des sites de référence sur l'actualité des numériques en général et l'actualité juridique du numérique, tout ce qui est liberté numérique, qui sont quand même assez en pointe là-dessus. C'est pas pour rien que c'est une de nos principales sources. Hein. On a par exemple l'article sur la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne pour faire annuler la réponse graduée, c'est un article de Next Impact. Donc, c'est un site avec un vrai travail journalistique, c'est important et nous, on le sait en tant que amateur, hein, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des journalistes et on se rend bien compte à quel point le travail de journaliste professionnel dans ce domaine est quelque chose de très précieux. Alors même si dans la presse généraliste, Le Monde fait quand même un travail qui est pas mauvais, hein, ils ont cité des experts. Bon. Il suffit de regarder. Par contre, les journaux télévisés, ce qui reste notamment pour les plus âgés, la principale source d'information, on voit qu'il y a quand même un gros gap. Donc Next Impact, qui vivait depuis plusieurs années avec ses abonnements, donc, ils ont donné les chiffres, hein, c'est principalement les abonnements qui leur apportent de l'argent, un petit peu les publicités. Mais l'équilibre est compromis, donc ils sont menacés donc, de ne pas pouvoir poursuivre leur mission. Ils ont dû se séparer de salariés récemment, donc c'est assez compliqué pour eux. Donc l'émission est abonnée,
oui,
évidemment, hein.
Très, très important pour nous.
Donc on vous encourage à soutenir la presse indépendante. Donc il y a plusieurs solutions, une piste hein, qui est explorée. Donc ce serait de créer une fondation d'entreprise, si je dis pas de bêtises.
J'ai pas retenu toutes les solutions.
Non, c'est un fonds de participation, donc où les dons seraient défiscalisés à hauteur de 66%, ce qui permettrait de financer un petit peu plus facilement ce média. En tout cas. On espère que ce site continuera à perdurer et qu'il y aura toujours des journalistes professionnels pour traiter.
Pour le coup, vraiment, l'émission perdra en qualité si le site. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. L'émission perdra en qualité si Next Impact disparaissait réellement. Parce qu'aujourd'hui, clairement, que ce soit moi ou Alexandre, on n'a pas le temps de faire du suivi. Approfondir.
C'est un métier, c'est un vrai métier. Hein.
Faire le suivi des affaires judiciaires, ce genre de choses.
On est très critique des fois avec la presse, c'est parce qu'on a aussi beaucoup d'attentes.
Oui. Mais et là, Next Impact, ce sont parmi les seuls à faire des comptes rendus aussi détaillés et accessibles, c'est réussir à faire les deux en même temps, sur des projets de loi, sur des, ils font des demandes CADA à tort et à travers quasiment pour obtenir tous les détails possibles sur différentes procédures, ils font un vrai travail là-dessus, et c'est admirable, c'est une source de données.
Et avoir une compréhension juridique et technique des sujets en même temps, c'est quelque chose de très rare.
C'est rare, et rendre ça en plus... être capable de rendre ça accessible à tout le monde. Parce que, d'ailleurs, régulièrement, je fais attention à bien citer Next Impact en source quand c'est vraiment sur des articles où ils ont fait un gros travail là-dessus. Donc, n'hésitez pas vraiment à les soutenir. C'est une excellente source d'information. Donc, ils sont plutôt axés techniques avec un axe quand même très important sur tout ce qui est juridique autour de liberté numérique. C'est l'un des sites les plus importants en France sur ce sujet. Je pense qu'ils doivent même finir par être connus au niveau des ministères et autres parce qu'ils doivent passer beaucoup de temps à les titiller pour rester gentils. Donc j'espère qu'ils ne vont pas fermer pendant l'été. Parce que ça là, c'est le risque, c'est que d'ici la fin de l'année, ils n'existent plus. Clairement, l'émission perdrait en qualité s'ils n'existaient plus.
Le Mars Waterfinder de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, fonctionne sous... En partie au moins.
Ouais.
Tu vas nous expliquer ça, Pierre.
Voilà, je vais expliquer parce que là, c'est heureusement je. Alors, le détail en fait est pas très clair dans l'article. J'ai du mal à trouver une source claire, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse incompréhension là-dessus. Donc le Mars 6, donc, enfin l'ESA, a envoyé le vaisseau Mars Express avec un instrument Mars 6 qui a pour but de trouver de l'eau liquide sur la planète rouge. Jusque-là, tout va bien. Et ils avaient besoin de mettre à jour cet instrument. Ils voulaient améliorer les performances de l'instrument, mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas mettre à jour le logiciel facilement parce que le logiciel a été développé avec Windows 98, et tous les outils de développement dépendaient de Windows 98. C'est pas le logiciel lui-même qui faisait tourner un Windows 98.
Ouais, c'est pas très clair.
C'était pas clair. Et donc, les titres ont mal repris la chose, parce qu'effectivement...
Et comme tu travailles à l'Agence spatiale européenne, Pierre...
Non, mais en fait, il fallait lire... En fait, c'est là-dessus, justement, travail journalistique qui n'a pas été fait correctement. La publication de l'ESA est assez claire. Ils mettent en avant le point que, ben oui, en fait, ils avaient développé ça avec Windows 98 et ben, leur machin, il tourne toujours. Merde, il faut mettre à jour. Et donc, du coup, là, ils ont une grosse étape. Pour eux, ça n'a pas été seulement de mettre à jour le code, ça a été de mettre à jour les outils pour développer le code. Parce que c'était pas si simple que ça, ils étaient dépendants de Windows 98. Un Windows 98 dans l'espace pendant aussi longtemps, j'avoue, je m'inquiéterais. Je pense que s'il y a des civilisations extraterrestres, elles se seraient enfuies en voyant le truc.
Voilà l'intérêt d'avoir des sites avec un vrai travail journalistique.
Voilà, et bon, il y en a plein articles, qui sont plantés.
On aura des articles clairs. On va passer à des nouvelles logicielles, mais après un second morceau de musique, nous allons écouter Nikki G. Crawford, Santa. Vous écoutez les codes de nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
When I woke up this morning, there was sadness and strife. It seems like everybody is having pain in their lives, but it's the time of year for happy. I just don't see. Will Santa come to me? Now trust me, I know the times get hard. I lost my granny, my best friend. I wasn't ready. It's the time of year for happy.
C'était Nikki G. Crawford, Santa. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler logiciel libre.
Waouh,
quelle surprise! Vous êtes this body, je le sais. Thunderbird 102 vient de sortir. On ne glosera pas une nouvelle fois sur ces versions. Et il y a de la fusion-acquisition dans l'air et Thunderbird va débarquer sur mobile. Et pas n'importe comment, monsieur Pierre. Vous allez nous l'expliquer.
Tout d'abord, juste pour leur défense, pour le numéro de version.
Ils suivent Firefox. Oui,
voilà, c'est en fait, ils suivent le numéro de version de Firefox. La version précédente de Thunderbird, c'était la version 91 parce que c'était basé sur Firefox 91. Et donc à chaque fois que Firefox sort une nouvelle version ESR, donc les versions à support étendu, à support prolongé, Thunderbird sort une nouvelle version. Et donc là, Firefox 102, nouvelle version ESR, donc Thunderbird 102, tout simplement. On va pas vous faire trop la liste des changements, hein, amélioration du carnet d'adresse, des améliorations d'interface à droite à gauche, un nouveau système d'import-export de l'ensemble des données, ce genre de choses. Ça a l'air assez intéressant pour les utilisateurs de Thunderbird. Je vous invite, si vous utilisez Thunderbird, à vous mettre à jour. Si vous êtes sur des webmails, je vous invite à reconsidérer vos choix de vie et à passer sur Thunderbird ou autre. Mais en tout cas, un logiciel de mail, pour ceux qui suppriment leur mail parce que oui, c'est pour économiser de l'électricité. Non, supprimer un mail, ça économise pas d'électricité. Utiliser un lecteur de mail plutôt qu'une webmail, ça économise de l'électricité.
Moi, je connais des entreprises où on nous a recommandé des nouvelles signatures pour économiser de l'énergie.
Ouais, mais ça, c'est vrai. Parce que t'as des entreprises où t'as des crétins qui ont des signatures de mail qui sont plus lourdes qu'une disquette.
C'est pas faux.
J'ai déjà vu des signatures de mail de plus d'un mégaoctet. Je suis désolé, un mégaoctet, c'est énorme.
J'avoue, pour un mail, oui. C'est-à-dire que c'est considéré comme un gros mail, d'ailleurs. Mais il aura un certain
nombre de messages. Voilà. Alors, à une époque, dans mon lecteur de mail, les mails de plus de 50 kilooctets étaient
normalement un mail, hein, c'est que du texte. Ben, théorie.
À l'époque, je pouvais lire encore beaucoup de mails. Je pense qu'aujourd'hui, je crois que si je remettais ce genre de règles, je sais pas si je pourrais ouvrir beaucoup de mails, en fait.
Ben, tous les mails HTML, je pense que c'est mort.
Ouais, c'est un peu lourd. Mais du coup, ça serait bien que les gens comprennent un peu que oui, effectivement, il faut réduire la taille des mails. Et donc, l'autre nouvelle, c'est que Thunderbird a décidé d'entrer sur le marché d'Android.
Ce qu'avait déjà fait Firefox et QC.
C'est ça. Sauf que là, leur
réflexion d'ailleurs de Firefox, plutôt qu'utiliser le client Chrome par défaut, c'est que vous pouvez utiliser des extensions anti-pub et qui garantissent la vie privée. On en parlera d'ailleurs plus tard de la vie privée dans Firefox. Ouais.
Et du coup, Thunderbird, ben, ils se sont dit, ouais, mais si on veut faire une version Android, ça va être hyper compliqué. Parce qu'il faudrait tout redévelopper. Alors, le moteur d'interface n'est pas du tout adapté. Il faudrait développer une nouvelle interface à partir de rien. Et donc, la décision, ça a été plutôt de faire une fusion avec l'équipe du projet libre K9 Mail. Et donc, le développeur, le mainteneur principal de K9, donc Christian Ketterer, a rejoint l'équipe de Thunderbird. Et donc, ils vont ensemble transformer K9 Mail en Thunderbird sur Android. Donc, il va y avoir un alignement, un rapprochement sur certains éléments. Je suppose qu'il va y avoir plus de facilité pour importer, ce genre de choses.
C'est un rebranding aussi, qui vont bénéficier de l'image de marque de Thunderbird, qui est un petit peu plus connue. Bon, même si c'est beaucoup moins connu que Firefox.
Tout à fait. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est une bonne petite chose. Je n'utilise pas Android, donc je ne peux pas juger la qualité de K9 Mail ou le besoin de cette solution. Mais c'est une bonne nouvelle. J'espère que. En plus, Axon, ça pérennise le projet K9 Mail finalement en le mettant sous la bannière de Thunderbird qui est un peu plus connu et qui a peut-être plus de financement.
On reste chez Mozilla avec Firefox qui active la Total Cookie Protection par défaut à partir de la version 101.
Tout à fait. Donc, alors, elle était disponible depuis un certain temps, mais c'était réservé aux modes les plus stricts. Et donc là, depuis le début de l'année, c'était à peu près clair que ça allait arriver. Alors, qu'est-ce que c'est la Total Cookie Protection? Donc, les cookies, petit rappel, lorsque vous visitez le site machin.com, machin.com peut enregistrer dans votre navigateur web un identifiant ou un bloc de texte. Pas trop lourd, s'il est trop lourd, ça ralentit considérablement la navigation. Donc en général, c'est un identifiant de 30-60 caractères qui va être enregistré pour une durée à déterminée par le site. C'est là où se trouve le problème, puisque il y a certains sites qui vont dire « Ah ben, ça, je stocke pour la durée de la session, vous fermez le navigateur web, le cookie est perdu. » Il y en a qui stockent pour un jour, une semaine, un mois, un an, 30 ans, 100 ans, 1000 ans. Vraiment, il y en a qui stockent vraiment sur des durées délirantes. Et le problème, c'est que quand vous visitez du coup toto.com, eh ben, s'il y a une bannière de publicité qui vient de chez machin.com, machin.com va pouvoir vous retracer grâce à ce cookie. Parce que le cookie va être le même entre une visite sur toto.com qui affiche la publicité et une visite sur bidule.com qui affiche la publicité de machin.com elle aussi.
Parce que tous les sites peuvent voir tous les cookies qui sont sur votre navigateur.
Tous les cookies sur un domaine lié au site. Attention, Google ne peut pas voir le cookie de votre banque, à moins que votre banque n'appelle des éléments chez Google.
D'ailleurs, c'est pour ça souvent que les traceurs utilisent des sous-domaines.
Oui, de sites. De plus en plus maintenant. Et donc, la Total Cookie Protection, quoi qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement pour Firefox une solution contre ce traçage. C'est que si vous allez sur bidule.com, vous allez avoir l'ensemble des cookies créé à partir de bidule.com, que ce soit pour bidule.com, ou pour machin.com, ou pour google.com, ou que sais-je. Si vous allez ensuite sur truc.com, vous aurez à nouveau des cookies de truc.com, machin, bidule, etc., qui vont être uniquement sur ce conteneur-là. C'est une isolation entre les différents cookies. Ce genre de fonctionnalité, alors, il y a l'un des points négatifs que je vois, c'est que ça casse effectivement la réalité technique de ce qu'étaient les cookies jusqu'à maintenant. Ça casse fondamentalement leur fonctionnement. Mais au moins, pour la vie privée, c'est un grand pas en avant. Et je ne vois pas Chrome, Google en tout cas, imposer ce genre de choses, à moins qu'ils aient déjà en tête une solution pour ne plus autant dépendre des cookies pour leur publicité à eux.
Et tu parles éventuellement d'un identifiant unique par navigateur ?
Non, jamais ils oseraient faire ça.
Je dis ça au pif. Hein.
Ah, et accessoirement dans les nouveautés de Firefox aussi, dans les URL, notamment toutes les personnes qui m'envoient des liens qui ont été pris par Facebook, je le vois tout de suite, parce qu'il y a un identifiant énorme dans l'URL, un FBCLID, donc qui permet à Facebook de savoir que au site de savoir que c'est passé par Facebook. Ça permet de suivre les.
C'est pareil avec tous les réseaux sociaux. Hein. C'est,
ouais, je suppose, ouais. Firefox, c'est désormais,
Twitter,
il supprimera
marqué,
tout seul.
Twitter, machin, bidule.
Il y aura un mode de protection dans le mode de protection strict contre le pistage. Désormais, ce sera supprimé automatiquement.
Non,
bon débarras.
La Software Freedom Conservancy, j'ignorais l'existence jusqu'à ce que Pierre nous partage cet article, appelle à abandonner GitHub à cause de Copilot. Tu vas nous expliquer tout ça, Pierre.
Oui, bah on en a déjà parlé récemment de Copilot. Copilot, donc, c'est une intelligence artificielle pour aider à écrire du code. J'avais beaucoup ri parce que 80, c'est une statistique officielle, voyons, 80% du code est dégueulasse et buggé. C'est tout comme 80% des statistiques sont fausses. Et donc, Copilot, c'est une intelligence artificielle entraînée donc par GitHub, GitHub qui appartient à Microsoft, entraînée par GitHub sur l'ensemble du code hébergé qui est sous diverses licences libres et éventuellement gratuites. Et donc, ils ont entraîné l'intelligence artificielle, ils lui ont fait lire tout le code, et derrière, quelqu'un qui va être en train d'écrire du code, cette intelligence artificielle va essayer de deviner le code qui va être généré. Mais du coup, c'est une putain de violation de copyright. Parce que quand un humain fait ça, c'est extrêmement compliqué. Ce genre de problème, on le voit en reverse engineering. Quand on prend un logiciel privateur et qu'on essaye de faire un équivalent libre pour être compatible avec un format de document ou autre, il faut faire très attention à bien séparer la personne qui fait le désassemblage, l'analyse du format, elle va juste écrire une documentation et c'est quelqu'un qui va prendre la documentation pour écrire du code. Il faut mettre une barrière stricte entre les deux pour éviter qu'il y ait une fuite de copyright, même en partant d'un code compilé. Donc là, en partant d'un code source, pas d'un code décompilé, cette intelligence artificielle a appris le code et va le reproduire et va reproduire du copyright.
Ce qui n'est pas une idée très maligne.
C'est une putain de mauvaise idée et c'est du vol. C'est du vol du logiciel libre puisque cette intelligence artificielle pourra être utilisée pour écrire du logiciel propriétaire. Donc on a un vol flagrant de code libre.
C'est une violation de licence à partir du moment où c'est du logiciel libre copyleft.
À partir du moment.
Ah, quoi que oui, même pas parce que si c'est du baiser, effectivement, il y a quand même la nécessité en fait de citer, effectivement.
Oui, il y a plein de licences qui ont des restrictions et tout le code qui va être sous le GPL, LGPL, AGPL, ça va être un gros problème. Et je rappelle que sur GitHub, il y a des clones du noyau Linux, par exemple. Il y a des clones de tas de logiciels qui sont sous licence GPL, qui n'ont aucun, il y a aucun droit pour un logiciel propriétaire à reprendre ce code sans faire de rappel de licence sans pouvoir permettre de télécharger le code source puisque ce sera du code GPL. Donc toutes les personnes qui utiliseront ça pour le logiciel propriétaire vont être exposées à de graves risques, mais de la part de GitHub, c'est quand même une énorme, monstrueuse connerie. Et donc la SFC, donc une association à but non lucratif américaine, appelle à boycotter GitHub.
Merci Pierre. Le pilote pour la carte graphique Radeon R600 a été grandement amélioré. Je ne vois pas trop l'impact significatif, mais je suis sûr que Pierre, lui, va la trouver.
Ah non, il n'y a pas d'impact.
Il n'y en a pas. Okay.
Y a pas d'impact. Okay. Alors, on s'en fout.
Ok.
À part sur un élément, et c'est pour ça.
On a des choses à dire, hein, pourtant, Pierre.
Maintenant, il y a une chose à dire. En fait, c'est pour ça que je le mets. Parce que, effectivement, les Radeon R600, bon déjà, R600 en plus c'est le nom de code interne, c'est pas le nom de la carte, c'est les Radeon HD 7000 pour ceux qui s'en souviennent, et c'est ça qui est important pour ceux qui s'en souviennent, puisque c'est des cartes qui ont plus de 10 ans. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, il n'y a aucun fabricant de cartes graphiques ne fait de mise à jour de ses pilotes 10 ans après leur sortie avec des améliorations comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est que ces cartes-là font partie des cartes pour lesquelles AMD a fourni de la documentation, et a fourni un pilote libre de base. Et du coup, aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, les développeurs ont trouvé des améliorations à faire et ont fait des améliorations massives sur ce pilote avec des améliorations de performance et de stabilité et autres. Et ça illustre l'un des grands intérêts du coup d'avoir des pilotes libres pour tout le matériel. Ça permet d'avoir un suivi, même 10 ans après la sortie du matériel, quand le matériel fonctionne encore.
On continue avec un peu de matériel. Core Boot, donc le BIOS libre, est disponible sur une carte mère moderne.
Tout à fait. Donc là, alors je ne vais pas m'amuser à. C'est une carte du fabricant MSI. Alors c'est pas MSI qui a fait le travail, hein, c'est l'entreprise 3Embed qui a travaillé sur un port de Core Boot sur cette carte mère. Alors, on a déjà fait plusieurs fois des explications sur le fait que sur les processeurs modernes, on ne peut pas faire un firmware entièrement libre. Donc, ça dépend tout de même encore du FSB d'Intel, qui est un bloc propriétaire. Mais ça permet, une fois que, quand on appuie sur le bouton power de la machine, au bout de rien de temps, c'est du code entièrement libre et patchable, améliorable, corrigeable, qui fonctionne. Et ça, c'est une grande avancée pour tout le monde. Ça permet d'avoir, ben voilà, on l'a dit juste avant, avec l'exemple des Radeon, peut-être que dans 5 ans, il y aura besoin de faire une correction de bug, et ben ce sera possible. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez une carte mère, alors en plus, je ne sais plus si c'est ce fabricant ou un autre qui m'a fait le coup, la carte mère, oh, non, c'est un autre, pardon MSI, c'est pas toi. C'est un autre fabricant, au bout de 1 an, la carte mère n'avait plus aucune mise à jour. La seule mise à jour, c'était un BIOS en bêta. Très pratique, surtout que ben, entre temps il y avait eu des failles de sécurité majeures, je savais que la carte mère était concernée, mais ma cache, tu peux te démerder, t'as pas besoin de mise à jour mon coco.
Ouais, quand même besoin de réglementation quand même sur ce.
Non, tu crois ouais. Mais voilà, c'est les fabricants de matériel, ils vendent pas du logiciel, hein, ils savent pas faire.
La dégeekalisation, c'est après IDFX One Day. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. I have a dream of living the town I'm living in. Not going up, not going down, but away. One day, nobody can stop me from doing this way. I'm gonna try a little. A little bit of happiness for a day, a little bit of love without pain, a little bit of sunshine and a perfect sunset. I'll go, I'll get. I'm gonna try, I'm gonna find the pretty girl. The very next day we're gonna fly far away and stay. Nobody can stop me from doing. C'était IDFX One Day. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, tu étais énervé par les articles, ce que racontait Ubuntu sur les temps de chargement des logiciels utilisant Snap. Et cette fois-ci, tu vas nous en faire une dégeekalisation parce que tu es toi aussi fort marié. Tu es bugué.
C'est long, 6 secondes, hein. Et tu vois, j'ai fait exprès. Moi aussi, je sais m'amuser. Non, c'est vraiment... Je suis assez outré par un article de blog que j'ai vu, parce que il y a des façons d'annoncer les choses qui me perturbent. Voyez-vous, quand on m'annonce, oui, on a amélioré de... On a réduit de 50% le temps de démarrage de Firefox sur Ubuntu. Donc, je ferai un petit rappel après. On a diminué de 50% le temps de démarrage. Je fais, waouh! Parce que pour ma part, je trouve que les applications, elles ont quand même... Ça, c'est quelque chose qui m'attriste sous Linux. J'ai la sensation, des fois, que les applications démarrent plus lentement que ce qu'elles devraient. Et après, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai pas assez de temps. Et donc, quand on lit 10 millions de sondes, 50% du temps de démarrage, ouais, c'est bien. Sauf que là, donc, c'est un démarrage à froid de Firefox sur une machine. Alors, les spécifications sont pas bien détaillées, je trouve, mais c'est quand même hallucinant. Donc, c'est une machine avec un processeur AMD récent, 8 gigaoctets de RAM. Ça reste très bon, quand même. Pour de la bureautique, c'est très bon. Carte graphique, on s'en fout. Et un disque NVMe. Donc, un disque NVMe, c'est on ne peut plus rapide comme disque aujourd'hui. Et donc, ils sont passés d'un temps de démarrage de Firefox de 15 secondes à 6 secondes.
C'est vrai que 15 secondes pour lancer un
logiciel...
C'est
putain d'inadmissible.
Même sous Windows 98, on trouvait ça long.
C'est inadmissible. 15 secondes, c'est pas un billet de blog pour dire on a amélioré les performances qui veut dire, c'est un putain de mot d'excuse.
Je crois que 15 secondes, même en démarrant à froid mon PC, je lance plus vite Firefox.
Pareil pour mon PC portable professionnel, parce que j'ai plus PC portable perso ou mon PC fixe, 15 secondes, si je tapais suffisamment vite mon mot de passe, je mettrais moins de temps entre le moment où j'appuie sur le bouton power et le moment où Firefox s'affiche, que là pour démarrer Firefox sur Ubuntu. Donc, petit rappel des faits, hein, ou plutôt des méfaits. Il y a un problème avec les navigateurs web, il y a un vrai problème, c'est le cycle de sortie. On en a parlé tout à l'heure en riant sur le numéro de version, Firefox 102, Chrome 100 et quelques patates, on s'en fout. Pourquoi ils sortent des trucs aussi vite? C'est parce que Google a enclenché la marche forcée sur les évolutions ou les régressions du web. Et du coup, Mozilla est obligé de suivre le rythme, et c'est un rythme tellement délirant que les distributions aujourd'hui, avec les méthodes de packaging, elles ont un mal de chien fou à suivre le rythme, parce que c'est extrêmement chiant comme boulot, et ça ne colle pas du tout à la façon dont sont édités les logiciels. Alors pour une distribution comme Ubuntu, qui est pas très stricte là-dessus, c'est pas trop grave. Pour une distribution comme Debian, qui refuse de mettre à jour normalement des logiciels en cours de route, et qui refuse d'introduire des nouveaux logiciels dans une distribution déjà sortie, c'est particulièrement complexe. Et aujourd'hui, ils sont en train de considérer que ils vont abandonner le support de Firefox sur les versions longues, parce qu'ils ne peuvent pas le faire.
C'est-à-dire que tu abandonnes quasiment Debian pour le desktop, enfin en tout cas les versions stables.
Tu peux les garder, mais tu ne pourrais pas les garder en support long terme. Le support long terme qui est sur 5 ans et quelques, ça ne sera pas possible. Ce qui est compréhensible vu la vitesse d'évolution des navigateurs. Et donc la solution d'Ubuntu à ce problème, c'est ce qu'ils appellent les snaps. Donc une solution propre à Ubuntu. C'est un concurrent de Flatpak, donc on a déjà parlé dans une dégeekalisation précédente cette année. C'est un autre format de paquet qui a différents avantages et un fonctionnement particulier. Et c'est là où je trouve que c'est assez inadmissible. Les snaps, plus encore que Flatpak, c'est assez long à charger. Et je suis gentil quand je dis assez long à charger. C'est inadmissible. Donc là, pourquoi il y a ce problème ? En gros, un snap, en plus je trouve ça nul comme nom, un snap c'est une archive qui contient l'ensemble des dépendances nécessaires pour faire tourner l'application. L'ensemble, c'est-à-dire l'application elle-même, mais tout ce qu'elle va utiliser. Dans un environnement Linux, contrairement à un environnement de système fermé comme Windows par exemple, sous Windows, une application, elle peut s'attendre à trouver... Alors, les noms vous parleront sûrement pas, ils parleront aux plus vieux utilisateurs qui ont déjà vu des écrans bleus éventuellement qui mentionnent ça. Donc du user32.dll, du gdi32.dll et autres. Ah bah oui, tu te souviens peut-être de ça, Alexandre ? Vu ta tête ?
Bah, les .dll, oui, la bande-mêlée, oui.
C'est... Alors ça, c'est... les DLL que je viens de citer, elles ont la particularité d'être dans le système Windows et de ne jamais être remplacées ou recopié par les applications. Donc ça veut dire que quand l'application se lançait, elle avait CDLL à elle pour ses propres dépendances, mais le système lui-même, elle s'attendait à ce qu'il y ait un système de base, et donc elle ne le copiait pas. Sous Linux, il n'y a pas cette supposition. La seule supposition qu'on puisse faire, c'est d'avoir un noyau Linux, éventuellement une libc, et encore, il y a des écarts. Du coup, la surface commune, on va dire, entre les différents systèmes Linux, elle est beaucoup plus petite. Et donc un snap contient beaucoup plus de choses. Il contient le thème du système, il va contenir la bibliothèque GTK, donc ce qui gère les widgets pour certaines applications, enfin les composants graphiques pour certaines applications. Il va contenir tout un ensemble de dépendances. Il va même contenir des pilotes de cartes graphiques, parce qu'ils vont être nécessaires pour certaines dépendances qui doivent être dans la bonne version. Ce fonctionnement-là, je trouve, est assez délirant, pour rester courtois. Vraiment, je fais mon possible pour être courtois avec eux, là. Et donc, ben, Ubuntu a décidé, à marche forcée, que ce serait désormais la seule solution pour utiliser Firefox et Chromium sur Ubuntu. Ces logiciels-là ne sont plus disponibles dans les dépôts. Si vous installez le paquet, ça installe le Snap à la place. Et donc, pour que les archives ne soient pas immenses, puisqu'elles embarquent un système quasi complet, ça veut dire qu'un Firefox prendrait un demi-giga, un giga peut-être même, pour que ce ne soit pas immense, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on compresse. Et ça, là, c'est quelque chose que je comprends encore moins. La compression, c'est un sujet qui est assez compliqué. Il y a des tonnes d'algorithmes. Et ils ont tous des profils très spécifiques. Ils compressent plus ou moins certains types de données. C'est très variable. Par exemple, si vous voulez compresser du texte, vous n'allez pas forcément prendre le même algorithme que pour compresser des fichiers d'application. Vous allez avoir différents profils selon que vous vouliez avoir des bonnes performances en temps de compression ou en temps de décompression. Selon que vous vouliez que ça utilise beaucoup de RAM ou pas beaucoup de RAM. Il y a vraiment des tas de paramètres sur lesquels jongler pour faire le bon choix. Et donc là, par un article du blog d'Ubuntu, j'ai appris qu'ils avaient utilisé l'algorithme XZ. L'algorithme XZ, pour ce choix, c'est l'un des pires choix possibles. Alors Alexandre, connais-tu les particularités de XZ ?
Eh ben, tu vas me les apprendre à moi aussi.
Voilà, XZ, c'est un peu comme BZIP2 en termes de performance, c'est-à-dire que c'est...
C'est assez ancien quand même.
Alors, XZ est plus moderne que BZIP2, hein, clairement, mais XZ n'est pas conçu pour la vitesse de compression-décompression. XZ vise le taux de compression. C'est un choix, mais du coup, pour le démarrage d'une application...
C'est dommage.
C'est dommage. Oui, on va rester courtois. C'est très dommage. Du coup, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé l'algorithme de compression. Alors, j'aime beaucoup l'article de blog qui dit « On a changé d'algorithme de compression, mais qui ne donne pas les chiffres sur l'évolution du poids de l'application, par contre. » Ça, chut, on va pas le dire. Mais c'est juste en changeant l'algorithme de compression, ils sont passés de 15 secondes à 6 secondes. Je pense pas avoir la science infuse, mais... je peux leur laisser mon adresse mail, ils auraient pu me poser la question, je leur disais tout de suite, quoi. C'est connu que c'est pas appelé.
Ils connaissent les tarifs, Pierre, ils savent que c'est pas dans leurs moyens.
Non, mais c'est idiot. Et juste pour finir sur cette blague, sur Raspberry Pi, ils sont passés d'un temps de démarrage de Firefox, ils l'ont réduit, et ils s'en vantent, ils l'ont réduit de 50%. Ils sont passés à 17 secondes en temps de démarrage. Ils étaient à 36 secondes de temps de démarrage. 36 secondes. Moi, en 36 secondes, je considère que la machine, elle a planté. Que c'est tout.
Parce que en 36 secondes, j'ai déjà cliqué 3 fois sur l'icône de Firefox pour
le
démarrer.
C'est normal, tout le monde fait ça. C'est idiot. C'est impossible. Je ne comprends pas ce choix. Et surtout, ce qui me révolte, c'est l'angle qui est pris pour en parler, c'est de dire on améliore les performances de 50%. Vous êtes des menteurs.
Merci Pierre pour cette petite mise au point. C'était la dédicalisation de la dernière émission de cette saison. Donc,
vacances
saison. On part en vacances. C'était la 12e saison de l'Écho des Gnous. On revient alors plutôt fin septembre, début octobre, parce que moi je pars en vacances en septembre. On essaiera de vous mettre quelques émissions d'ici le mois de septembre pour patienter un petit peu. En tout cas, merci à vous de nous avoir accompagnés encore dans les conditions, on va dire, délicates qui étaient celles de la crise sanitaire. J'espère que la saison 13 sera un petit peu moins concernée. En tout cas, on vous souhaite, pour ceux qui en passent, de très bonnes vacances et tout de suite, vous retrouvez Chupa Pimento. Au revoir et au mois d'octobre.
Au revoir à tous. Ciao, bye bye.
Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.